Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmoundi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Auditeurs, téléspectateurs, bienvenue au Grand Dialogue. Le 13 février nous donne l'occasion de parler de nous-mêmes puisque c'est la journée mondiale de la radio. Le thème choisi cette année est « La radio, c'est vous ». Quelle est l'importance de ce médium chouchou au Mali? Quelles en sont les insuffisances dans notre pays? Enfin, quel est le futur du médium radio? Avec nous sur ce plateau pour en parler, Diomansi Bomboté, il est journaliste, ancien professeur au CESTI, ancien fonctionnaire à l'UNESCO, Manga Dambélé, journaliste et directeur du Centre d'information gouvernementale, Bandjougou Danté, il est le président de l'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres, et Aliou Djim de la HAC. La HAC, c'est la haute autorité donc, de la communication. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Salim Diouara.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue. Avec plus de 400 radios au Mali, le pays est l'un des plus dotés en stations de radio en Afrique. Le médium reste le plus accessible aux Maliens qui le comprennent à l'évidence, puisque doté d'une culture dans laquelle la tradition orale occupe une place de choix. Diomansi Bomboté, vous êtes journaliste, ancien professeur au CESTI. Est-ce qu'on peut dire sans risque de se tromper que le Mali est un pays de radio ?
Oui, le Mali est un pays de radio, surtout sensu, si on s'en tient aux statistiques. Mais la radio, ce n'est pas simplement les chiffres. Les chiffres, c'est très important. Sur le continent africain, je crois que c'est une grande fierté pour le Mali d'avoir une telle densité de radio. Encore faut-il que cette densité-là corresponde à un impact sur la société, impact en termes de qualité de l'information, impact en termes de qualité d'acquisition de savoir. Parce que vous le savez, les fonctions de la radio, c'est à la fois c'est l'information, c'est aussi la pédagogie, c'est l'acquisition du savoir. Nous sommes dans une société, une civilisation du savoir. Il faudrait faire un diagnostic, un bilan. Est-ce que les radios en général en Afrique, et singulièrement en Afrique, remplissent ces fonctions-là? Je crois qu'il y a beaucoup
merci
à dire là-dessus.
Monsieur Bomboté, l'URTEL est avec nous. Ouais, je pense que l'URTEL est mieux placé pour nous répondre à cette question. Déjà, est-ce que les 400, plus de 400 radios au Mali, est-ce qu'elles sont toutes membres de l'URTEL déjà?
Merci beaucoup. L'organisation que je préside aujourd'hui revendique 367 radios. En dehors des radios membres de l'URTEL, il faut préciser, est membre de l'URTEL, les radios illégalement implantées. Un membre de l'URTEL, radio légalement implantée. Vous n'êtes pas membre de l'URTEL, radio illégalement implantée, et quelques radios qui ont fait le choix de rester à côté. Ça, je ne vais pas commenter ça. Mais de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, nous représentons les 99% du paysage radiophonique malien.
Alors, Bomboté le disait tout à l'heure, hein, beaucoup de radios, mais pour quel impact finalement? Est-ce que vous pensez que ces radios ont un contenu qui permet aujourd'hui d'aller vers un développement concret, contribuer?
Le nombre de radios au Mali est à placer dans l'histoire radiophonique de notre pays. Et aujourd'hui, la radio devient un instrument de fierté pour la communauté. Et la radio aussi a surtout accompagné le processus de décentralisation. Nous avons 703 communes. La radio devient une fierté de la commune. Une fierté de la commune. Bien que nous ayons différents types de radios, les radios associatives, les radios confessionnelles, mais nous avons aujourd'hui tendance à comprendre que chaque commune, pour ne pas dire chaque communauté, pour ne pas dire chaque commune, géographiquement parlant, s'identifie généralement à une radio. Si bien que les fonctions traditionnelles de la radio ou les conceptions modernes que l'on peut avoir de la radio, outils d'information, de sensibilisation et de distraction, la radio devient en ce moment un instrument qui doit accompagner le développement local dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la distraction. Mais la radio vient jouer le même rôle dans une certaine mesure que les techniciens de l'agriculture, que le médecin. Et la radio peut même tenter de remplacer l'enseignant. Je ne l'ai pas dit qu'il remplace, tente de remplacer l'enseignant.
Merci Bandjougou Danté. Aliou Djim est également avec nous. Aliou Djim, merci de vous joindre à cette émission. Aliou Djim est de la HAC, c'est la Haute Autorité de la Communication. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de radios que les autres médias, par exemple, hein, quand on parle de la télé ou de la presse écrite? Pourquoi il y a beaucoup plus de radios au Mali?
Merci à vous. Je crois qu'il faut d'abord se réjouir du fait que aujourd'hui, on ait pu trouver une journée qui soit consacrée à la radio. C'est extrêmement important parce que pour tous les domaines, pour tous les secteurs de la vie, on est en train d'identifier justement des journées, de proposer des journées qui vont être le point de départ de l'amélioration justement de ces secteurs, de ces différentes choses. Alors que la radio ait eu sa journée et que cette journée ait été prise en compte par la maison de la presse et les associations fêtières pour lui donner un contenu, ça aussi il faudrait le saluer. C'est timide pour l'instant, mais en fait c'est quelque chose qui va venir progressivement et on espère qu'un jour, cette journée sera beaucoup une journée bien remplie, j'allais dire, et une journée justement qui va apporter des réponses à tous les problèmes qui se posent au niveau des radios. Alors pourquoi les radios sont autant nombreuses? Moi je crois qu'il faut, pour le cas du Mali, dire que nous sommes dans un pays de culture et de tradition orale. C'est absolument important de le savoir. Aujourd'hui, avant la radio, on avait utilisé beaucoup de médias, notamment justement les griots, notamment d'autres formes de communication qui nous servaient justement de moyens de relais des informations d'un point à un autre. Mais quand la radio est venue, quand on a libéralisé la radio, eh bien les Maliens ont trouvé en la radio un moyen idéal d'expression, de communication, d'échange d'informations. Et Dieu merci, jusqu'à présent, la radio est en train de jouer son rôle.
Merci beaucoup Aliou Djim de la HAC. Alors Bandjougou Danté, dites-moi, quelle est la responsabilité de l'URTEL hein, face à cette prolifération donc, de la radio?
L'URTEL est une association. Et une association, par définition, naît dans un contexte de démocratie et de pluralité. Le rôle de l'URTEL, c'est de travailler à respecter et à faire respecter ses statuts et règlements par ses membres. L'URTEL ne crée pas des radios. L'URTEL a en son sein des radios légalement créées. Maintenant, le rôle de l'URTEL, c'est de travailler à protéger le secteur, c'est de faire l'interface entre les radios et les différents partenaires, y compris les partenaires étatiques. C'est aussi un rôle de veille, d'attirer l'attention des décideurs sur les dangers que peut représenter le pullulement anarchique des radios.
On va parler tout à l'heure de ce rôle de veille d'ailleurs, hein, de l'URTEL en attendant. Le thème de cette année, la radio c'est vous, est-ce qui vous parle?
C'est très important. La radio c'est vous renvoie à une notion de la radio et son auditeur. C'est que le monde de la radio comprend différents acteurs. Ce monde est composé de ceux qui parlent, de ceux qui manipulent les équipements, de ceux qui écoutent aussi à la radio. La radio, c'est vous. En parlant de vous, c'est moi. Le moi, c'est qui? C'est l'animateur, c'est le journaliste, c'est le technicien, c'est l'auditeur qui écoute et qui peut agir, même sur le contenu de ce qui se passe à travers la radio sociale, les émissions interactives et même la prise en compte des préoccupations de ce public-là. Donc le monde de la radio est un monde hétérogène dans une certaine homogénéité.
Merci. Djomassi Bomboté, le thème de cette année, la radio c'est vous.
La radio c'est vous, c'est beaucoup de choses. Monsieur Danté tout à l'heure a évoqué les fonctions traditionnelles. Je crois qu'il n'a pas suffisamment mis l'accent sur la dimension participative. La radio c'est vous me renvoie à une pensée d'un grand homme politique contemporain du siècle dernier, Gandhi, qui disait que tout ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous. La radio, c'est vous, ça veut dire que depuis la conception des programmes jusqu'à leur réalisation, le public doit être partie prenante. Et c'est le rôle de l'URTEL de contribuer à la formation, à la sensibilisation, à la prise de conscience de cette masse informe qui reçoit souvent de manière un peu indifférente, diffuse l'information et n'a pas toujours le moyen de digérer, de l'interpréter et d'en tirer la substantif moelle. Alors, la radio, c'est vous, c'est très important. Ça veut dire que chaque auditeur, chaque décideur doit se sentir interpellé, impliqué dans la mise en forme des informations qui sont à diffuser. Tout à l'heure, je disais que c'était un moyen d'acquisition de savoir, mais encore faut-il qu'on ait conscience. Si on n'a pas conscience, la radio qu'on est en train de vanter peut être un instrument extrêmement nocif de démobilisation, de détournement, de destruction de la prise de conscience.
On l'a vu au Rwanda avec la radio Mille Collines en son temps d'ailleurs.
Certainement il y a au Rwanda, mais il y a beaucoup d'autres endroits. Mais de manière un peu insidieuse, même autour de nous, la radio peut être négative s'il n'y a pas une prise de conscience de la part des destinataires, c'est-à-dire une participation consciente qui fait de la radio un instrument de construction de l'individu et de construction de la société.
Merci. À lui, Jim de la Hack, dites-moi, les hommes de radio se plaignent hein, souvent. Est-ce que vous pensez que les hommes de radio gagnent bien leur vie au Mali?
Une très bonne question, mais j'allais continuer tout ce que Dante, tout ce que Bomoté ont dit tout de suite. La radio, c'est vous. Oui, la radio ne peut être que vous, la radio ne peut être que toi. Si vous regardez un tout petit peu l'histoire de la radio, qui va de la radio outil de propagande, la radio outil d'information pour venir à la radio aujourd'hui, outil de développement, eh bien, on ne peut que tout simplement, on répond tout simplement à ce que Bomboté a voulu nous dire à travers justement la pensée, la réflexion de Gandhi. Mais pour revenir justement à votre question, oui, l'homme de radio ne vit pas bien de la radio. C'est d'ailleurs là un des objectifs que nous nous sommes fixés en voulant aujourd'hui tracer, faire une nouvelle caricature, une nouvelle architecture de radio qui puisse être un outil, au-delà d'un outil, qui puisse être une entreprise d'abord de presse, une entreprise de presse qui puisse répondre à toutes les définitions, à toutes les bonnes définitions d'une entreprise quelconque qui est faite pour, c'est vrai, accompagner le développement, mais d'abord au moins exister par sa propre production, par sa propre rentabilité. Aujourd'hui, c'est malheureux de le constater, il n'existe pas, en tout cas ici au Mali, il n'existe pas plus de 5 à 10 radios dont les acteurs peuvent dire qu'ils sont rémunérés de façon conséquente, de façon à ce que l'argent qu'on leur donne leur permette non seulement de vivre, de faire vivre leur famille et de prendre en charge un certain nombre de conforts nécessaires justement à la vie normale d'un homme. Et c'est malheureux, et cela est... Nous avons pensé, tout simplement dû au fait qu'il manque un certain nombre d'organisations au sein de ces structures de radio qui, si on les mettait, si on les prenait en compte très rapidement, eh bien, on peut amener la radio de la forme de gestion qu'elle connaît aujourd'hui à une nouvelle forme de gestion qui puisse être une forme de gestion rentable, efficace, efficiente, productive et surtout qui puisse faire vivre son homme. Ça, c'est l'objectif, un des objectifs que nous sommes en train de nous fixer, justement, dans la rédaction des textes que nous sommes en train de faire au niveau de l'AC, qui ont connu d'ailleurs une bonne fin et que nous avons partagé avec les acteurs de la radio. Ils sont d'accord avec nous et ils pensent que si tout le monde comprenait la chose comme nous l'avons compris, comme nous l'avons conçu, comme eux et nous avons conçu ensemble, eh bien, on pourrait demain ou après-demain dire que la radio va faire vivre son monde. Nous sommes sur le chemin et nous devons espérer qu'avec l'accompagnement des acteurs actuels de la radio, eh bien, il sera possible que cette question soit bien sûr, la réponse soit oui.
Merci à Ludim. Bomboté, vous souhaitez réagir à cela justement? Est-ce que
oui, également, je voudrais peut-être faire de la provocation. Est-ce que la radio nourrit son homme? Le problème, c'est que nous constatons le nombre important de radios qu'il y a au Mali, qui est une source de fierté. Je suis toujours très ravi, très content dans certains forums de dire qu'au Mali, nous sommes le numéro un en Afrique. Mais le problème est de savoir, est-ce que la radio constitue aujourd'hui une entreprise de presse? Jim a évoqué rapidement la question, mais aussi bien la radio que la presse écrite que la télévision, il se pose un problème fondamental, c'est le problème de l'entreprise de presse. Elle fonctionne de manière artisanale. Elle fonctionne avec des outils approximatifs. Et je me demande si ce grand nombre-là, s'il y avait une fédération des énergies, à défaut de les rassembler toutes, mais je ne suis pas certain qu'en dehors de certaines rencontres, bon, disons des circonstances, s'il y a vraiment une volonté réelle de la part des animateurs de l'URTEL, de la part des animateurs de ces radios, une volonté de construire ensemble un instrument qui puisse vraiment sécréter des moyens de se suffire. Est-ce que la radio, Dante, je m'excuse, je fais un peu dans la provocation, est-ce que souvent n'est pas utilisée comme, j'allais dire, moyen de chantage, comme moyen de terroriser,
également, moyen de faire peur. Ceci nous amène d'ailleurs dans notre deuxième thème, mais dans notre deuxième sous-thème. D'ici là, observons quelques secondes de pause et nous reviendrons continuer cette émission.
D'accord. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
13 février, journée mondiale de la radio. On en parle aujourd'hui dans le Grand Dialogue. Bandiou Danté souhaitait réagir justement à cette question-là. Est-ce que la radio nourrit son homme au Mali?
En réalité...
Je le rappelle, avant d'être tel, vous êtes un homme de radio.
Bien évidemment, parce que je suis homme de radio que je suis tel. Donc, en réalité, moi, si vous me permettez, j'aimerais faire une petite déclinaison de votre question. Vous dites, est-ce que la radio nourrit son homme? Moi, je souhaiterais d'abord que la question soit formulée sous la forme suivante. Pourquoi la radio ne nourrit pas son homme? Parce qu'on sait déjà que la radio ne nourrit pas son homme. Est-ce que, en réalité, disons-nous la vérité, ne nous cachons pas la face, est-ce que la radio au Mali a été mise en place pour nourrir son homme? Moi, je pense que si on pose la question selon laquelle pourquoi la radio ne nourrit pas son homme, la réponse, elle est claire. Tant que la typologie n'est pas respectée, la radio ne peut pas nourrir son homme. Mais une fois que la typologie est respectée, on peut trouver déjà un début de solution.
Quand vous parlez de typologie, vous parlez de radio confessionnelle, radio
justement,
commerciale.
Quand on dit qu'on est associative, une radio associative doit être portée par les membres de l'association. Une radio confessionnelle doit être portée par les fidèles, en respectant les principes que la loi nous impose. Une radio commerciale doit vivre de ses prestations commerciales. Mais et si toutes les radios font la même chose, alors la concurrence, inutile secret, le client fait la loi et aucune radio ne pourra s'en sortir. Mais une fois que la réglementation est mise en place pour que chacun reste dans ce qu'il s'est défini comme étant, c'est là que la radio pourra nourrir son homme. Une association crée une radio. Vous devez engager des gens. Qui faudrait-il engager? Qui n'est pas engagé?
Déjà, au Mali, quel est le type de radio qu'on rencontre le plus souvent?
Au Mali,
parmi les 367 radios de l'URTEL déjà.
Je peux dire que les radios les plus nombreuses sont appelées associatives. Mais en réalité, les gens cherchent les papiers en appelant associative, commerciale, confessionnelle. On ne donne pas le contenu des mots aux mots. Si le contenu qui permet d'avoir les papiers était respecté et qu'il y avait la rigueur dans la distribution des fréquences, je pense que les choses pourraient avancer. Peut-être qu'on peut dire alléluia avec la création de la HAC. Si cette HAC arrive à avoir le courage de ses ambitions, nous pensons en faisant respecter la typologie, la radio va bel et bien nourrir son homme. Mais tant que chacun fait la même chose et que dans une localité de moins de 2000 habitants, on se retrouve avec 4 radios, mais naturellement, la radio ne peut pas vivre son homme.
Donc, en définitive, vous pensez que plus de 400 radios au Mali, c'est un peu trop?
Moi, je crois qu'au Mali, chaque commune peut avoir sa radio et que ces radios soient en mesure de nourrir véritablement les acteurs de ces radios-là. Je suis tout à fait d'accord avec le principe du nombre parce que la radio de proximité prend en compte les préoccupations locales. Une radio a beau être installée à Bamako, les populations des Antiguilla ne peuvent pas se reconnaître dans cette radio plus que la radio implantée chez elles, financée par les contributions des communautés.
Merci. Alu Jim souhaite réagir à ces propos.
Je crois que je veux réagir un peu à M. Dante en disant que effectivement nous avons l'ambition ici à la HAC de faire en sorte que franchement nous puissions faire tout ce qu'il a demandé. Mais je veux lui dire que la radio nourrice son homme n'est pas d'abord fondamentalement un problème de typologie.
Est-ce que vous pouvez diminuer quelque peu la radio qui est à côté de vous?
On dirait qu'il y a des échos.
Oui. Il y a des échos.
Oui.
Merci, allez-y.
Oui, je pense que, voilà, je crois que ça va mieux maintenant. La typologie, je disais, donc, permet tout simplement de reverser aux différentes radios la manne publicitaire qui leur revient. En réalité, ce n'est que ça. Ce n'est que ça, d'un point de vue rentabilité, naturellement. Donc, ça ne peut pas justifier la seule chose. Ce qui est un problème ici, c'est qu'aujourd'hui, au Mali, il est dit, c'est pourquoi la radio ne répond pas à ces normes d'entreprise, c'est parce que personne au Mali ne s'est fait le souci de faire une étude de faisabilité d'une radio pour voir éventuellement sa rentabilité et sa possibilité, justement, de faire face aux exigences d'une radio. Tout le monde a construit des radios sous des moyens embryonnaires, tout le monde est en train de recruter un personnel non qualifié, tout le monde est en train de travailler avec du matériel qui ne répond pas aux normes, tout le monde est en train, justement, de s'implanter sans vérifier si à droite et à gauche il y a suffisamment de ressources qui puissent venir alimenter la radio afin qu'elle puisse faire face à sa propre charge. Ce n'est pas la typologie qui se demande ça. Quand vous voulez créer une radio confessionnelle, vous le faites au grand marché de Bamako, ben écoute, vous allez faire votre radio confessionnelle, vous n'avez pas besoin d'ensemble. Quand vous voulez faire une radio commerciale, vous installez au milieu du grand marché de Bamako avec toute la porte ouverte des commerçants sur vous, avec les possibilités de publicité et tout ce qui s'ensuit. Naturellement, vous allez faire des efforts d'orientation de votre radio commerciale qui vont répondre en conséquence. Donc ce n'est pas la typologie forcément qui fait la chose, mais c'est vraiment depuis le début la conception même que nous faisons de la radio. Personne ne peut aujourd'hui dire au Mali que je vais mettre en créer une radio et attendre de cette radio justement une rentabilité parce que personne n'a jamais rien fait par rapport à l'étude de faisabilité de cette radio. Personne ne peut te dire que ma radio a été installée et que dans 5 ans je vais avoir ça, dans 6 ans je vais avoir ça, dans 10 ans je vais avoir ça. Ça manque énormément et on ne peut pas aller recruter du personnel qui ne répond pas, on ne peut pas aller chercher du matériel qui ne répond pas, on ne peut pas aller chercher des modes de gestion. Il y a des radios qui n'ont même pas un registre.
Merci à
Ludim. Qui n'ont même pas un cachet, qui n'ont même pas un reçu.
Merci à Ludim. Bandiku Dante souhaite rapidement réagir à ces propos.
J'ai le sentiment que mon aîné Jim résume la radio aux équipements et aux hommes qui y travaillent. La radio n'est pas ça. Et le respect de la typologie ne renvoie pas fondamentalement à ce qu'il appelle les mannes publicitaires. Le respect de la typologie renvoie au respect des ressources de tout un chacun. Quand on prend une radio associative, une association qui intervient dans le domaine agricole, c'est les résultats de l'agriculture qui peut permettre aussi de financer la radio en tant que support. Mais s'il comprend sous l'angle publicitaire, il devient purement et simplement commercial. Maintenant, une radio confessionnelle doit être financée par les fidèles. Parce que vous créez une radio pour des objectifs bien déterminés. Les fidèles doivent contribuer, que ce soit l'achat de cartes d'auditeurs, que ce soit l'organisation d'activités permettant de générer des ressources. Mais il ne s'agit pas à la régie de la radio de générer des ressources, mais il s'agit des activités connexes liées à la radio, de produire des ressources permettant de prendre en charge et les dépenses de la radio et les fonctionnements.
Merci. Alors, Djoumassi Bomboté, dites-moi, que peut-on noter comme insuffisance dans le secteur, hein, surtout dans notre pays en crise? Bon, certaines des insuffisances. Hein,
ça a été dit par Jim, ça a été dit par Bandjougou.
On parle souvent de manque de formation,
oui,
d'éthique,
voilà,
et de déontologie.
Ce que je voulais dire, c'est que fondamentalement, il y a un besoin de professionnalisation. Besoin de professionnalisation des différents secteurs d'intervention au niveau de la radio. Bien sûr, quand on parle de professionnels, on pense d'abord aux journalistes. Mais les journalistes sont au bout de la chaîne. Ce qui compte, ce qui est invisible, c'est d'abord la gestion, une gestion efficace. Une gestion efficace des outils de production, une gestion efficace du fonctionnement de l'administration. C'est très, très, très important. Dans la plupart des médias, c'est pas seulement les radios qui en souffrent, mais la plupart des organes de presse en Afrique ont ces lourds handicaps, sont très, très, très mal gérés. Ensuite, il y a un aspect très important, peut-être même plus important que tout le reste, c'est les valeurs fondamentales de la profession. C'est-à-dire les valeurs de l'éthique, les valeurs morales, le respect scrupuleux des règles de fonctionnement dans la profession. Là, il y a un effort énorme à faire. Et cela ne dépend pas seulement de la formation. Bien sûr, il faut mettre l'accent sur la formation. C'est prioritaire. Cela ne dépend pas seulement de la HAC, mais il faut que nous acceptions d'entrer dans une société de droit, dans une société où on respecte les droits. Quand quelqu'un a fauté, il faut qu'on cesse cet émotionnel-là. Il faut qu'on fasse valoir les règles du droit. Quand on a fauté, on a fauté. Dernièrement, il s'est passé un certain nombre de choses sur le plan de la profession. Ce laxisme-là contribue à tuer la profession, contribue à décrédibiliser la profession. Il y a certaines pratiques, franchement, je suis fier d'être journaliste, c'est ce que je sais faire. Mais parfois, devant certaines pratiques, je suis très, très, très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise quand on m'interpelle. Je suis très mal à l'aise devant des jeunes qui veulent embrasser cette profession et qui se disent outrés, malheureux, blessés.
Merci. Alu Jim de la HAC, on a constaté hein, parfois certaines dérives des hommes de médias. Qu'est-ce qu'il faut faire justement face à cela?
Bon, nous revenons à... J'ai comme l'impression que vous me posez la même question que vous avez posée à Diomansi, mais bon, d'une autre manière, tout simplement. En fait, le problème en la matière, c'est un manque de professionnalisme. Manque de professionnalisme dans la gestion, manque de professionnalisme dans la production, manque de professionnalisme dans le respect des normes éthiques et déontologiques. Et je vous avoue que dans certaines sociétés, eh bien, il n'est pas envisageable de voir un journaliste faire des fautes qu'on voit ici, chez nous, parce qu'il en connaît toutes les conséquences. Mais ici, on le fait en se disant, bon, de toutes les façons, au-delà des solutions judiciaires, au-delà des solutions professionnelles, il y a quand même le social qui intervient dans tous les cas pour finir un problème. Et tant que nous évoluons avec cette mentalité, on ne fera pas d'effort de correction sur soi, pour essayer au minimum de respecter les règles d'éthique et de déontologie. Et on va toujours continuer à naviguer ou à nager dans l'impropre, dans le non-professionnalisme.
Mais est-ce que justement ce manque de professionnalisme hein, au sein parfois des hommes de médias en général hein, n'est pas une résultante du manque de déontologie ou d'éthique que les gens ne connaissent pas parfois et même que les hommes de médias ne connaissent pas parfois au Mali?
C'est d'abord le problème de formation qui se pose. Je vous ai dit, allez-y dans une radio, excusez-moi, je suis homme de radio, la radio c'est ma vie, mais en fait je souffre du fait que quand vous partez dans une radio, le plus haut niveau de formation se limite au directeur ou à une deuxième personne, tout le reste c'est à peu près moins du BEPC, moins du DF. Et vous voulez que quelqu'un qui n'a pas réussi, qui n'a pas eu le DF, soit capable d'analyse correcte pour produire un article, pour produire une émission qui suppose des efforts intellectuels intenses pour intéresser tout le monde, satisfaire tout le monde et informer tout le monde. Mais voyez-vous combien c'est difficile? Vous voulez demander à celui-là d'avoir une éthique et une déontologie de travail? Mais c'est pas possible.
Merci. Diomansi Bomoté souhaite réagir.
Oui, avant que je voudrais poser...
Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque lié justement de cadre professionnel hein, dans les médias?
Non, on ne soulignera jamais assez l'importance de l'utilité de la formation. Je pense que des dispositions sont prises en ce moment pour améliorer ce chapitre-là.
Notamment la future école de journalisme.
Voilà. Hein. Mais je voudrais poser une question à Jim. Ce qui faisait la caractéristique du Mali, c'est la facilité déconcertante qui permettait la création des entreprises de presse, des radios, des journaux. Il suffit simplement de faire une déclaration, je crois que 300 000 francs suffisait. Bon, maintenant, sans lui demander les secrets qui sont en train de concocter là-bas, est-ce qu'il n'est pas question de revoir justement les conditions de création de ces entreprises de presse pour être un peu plus exigeant? Parce que ce qu'il dit, c'est pas normal qu'il y ait des amateurs qui fassent fonctionner une boîte aussi importante qu'une station de radio. Est-ce que des dispositions sont envisagées par la HAC pour améliorer les conditions d'accès à la création de ces entreprises Jim?
Alors, Aliou Jim, je vais vous demander de nous permettre de prendre quelques secondes de pause avant de répondre à cette question.
Action.
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
13 février, journée mondiale de radio, l'occasion pour nous de faire le point avec nos invités. Aliou Jim, alors je pense que le doyen vous a posé une question.
Oui, j'allais dire que un journaliste reste journaliste même quand il est dans son lit, parce qu'en fait de Bogoté est venu pour qu'on lui pose des questions, mais c'est lui qui pose des questions. Donc, Bomboté, je crois que Dante, qui est à côté de vous, peut témoigner des efforts que nous avons faits. Et à chaque étape, ils ont été appelés et ils ont été informés de ce que nous comptons faire par rapport justement aux nouvelles dispositions, que ce soit par rapport à ce qu'il faut payer, que ce soit par rapport à ce qu'il faut avoir, que ce soit par rapport à ce qu'il faut fournir. Je crois qu'on a donné toute une gamme d'informations utiles, pratiques, convenues entre nous, les professionnels de la presse, pour que la radio de demain, c'est-à-dire que la radio du jour après la mise en route justement de nouvelles radios par la HAC soit une radio véritablement professionnelle. Je vous en prie, c'est hein.
Merci Aliou Jim.
Alors, voilà, donc ça franchement, toutes les dispositions sont prises pour que la radio de demain, si l'URTEL nous accompagnait, si les autres nous accompagnaient, la radio de demain sera vraiment une radio vraiment professionnelle. Et ça, c'est ce que Bomboté a dit. Effectivement, il est prévu que demain, on ne peut plus aller se lever et se mettre dans son village et dire monter des bouts de fer les uns sur les autres pour dire bon, voilà, en bas, j'ai un vieil émetteur, je mets et puis j'ai une radio, ce n'est plus cela.
Merci. Du coup, Dante souhaitait réagir depuis tout à l'heure.
Mais bon, je voulais te demander, est-ce que des possibilités de regroupement ne sont pas envisageables?
Par rapport à quoi?
Par rapport à la prolifération des radios qui se ressemblent toutes, est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager des regroupements?
Chaque radio répond à un besoin spécifique d'une localité, d'une communauté à un moment donné. Oui. Maintenant, c'est que moi j'aimerais que les gens et les autres comprennent. Je suis tout à fait d'accord avec nos amis de la HAC, parce que la HAC, c'est nous aussi. La HAC, c'est nous aussi. Mais ce que les uns et les autres doivent retenir, et qui est très important, on ne peut pas calquer les réalités d'un monde occidental à la radio au Mali. Tout le monde parle de formation. Il y a eu tellement de formations au Mali. Même si on part aujourd'hui avec la création des centres de formation, mais il ne faudrait pas que les gens pensent que des journalistes savants formés dans les meilleures écoles doivent venir animer dans nos radios-là. Disons-nous des choses qui existent, qui sont réelles. La radio est née avec la démocratie au Mali. Maintenant, nous avons...
La radio, non, il y a une prolifération de la radio avec la démocratie.
Je vais venir. Il y a une prolifération, mais cette prolifération n'a pas sa raison, parce que quelque part, quelqu'un n'a pas joué son rôle. C'est une autorité compétente qui a donné autorisation à beaucoup de radios. S'il y a prolifération, celui qui a autorisé est responsable. Mais si on va jusqu'à laisser les non-autorisés, ça aussi, ça devient un problème. Maintenant que même avec les non-autorisés, les autorisés déjà constituent un pléthore. Maintenant, que faire? Moi, je pense qu'il faut jouer sur certains leviers. Faire en sorte que celui qui veut aller à la radio, celui qui doit aller à la radio, doit d'abord être un exemple dans la société. On n'a pas besoin d'aller à l'école de Victor Hugo pour pouvoir faire une bonne émission. Parce que quel type d'émission nous avons besoin? Nous avons besoin des émissions qui nous parlent santé. Nous avons besoin d'émissions qui nous parlent agriculture. Nous avons besoin d'émissions qui nous parlent du respect de certaines valeurs positives de notre société. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Maintenant, il faut trouver des gens capables d'utiliser ces outils, positiver ce qui peut être fait. Dans la langue locale, interroger le médecin. Voilà, le paludisme se transmet comment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger?
nous comprenons cela.
Vous voyez le côté très très pratique.
Mais c'est ça, il faut être élémentaire. Il faut être élémentaire et syllabaire. Mais quand les gens disent il faut professionnaliser, on ne va pas envoyer les animateurs de toutes ces radios à Paris, à Dakar, pour en faire des journalistes.
Dante, il faut...
Merci. Moi, j'ai une question pour vous. C'est est-ce que, j'écoutais Martin Fay, représentant de la Fondation Hirondelle, parler tout à l'heure, justement, en parlant de la Journée mondiale de la radio, qu'il faut adapter la radio à nos cultures. Est-ce que vous pensez que cette transition est bien réussie au Mali?
Mais écoutez, vous savez, il faut éviter des pièges à cons. Il ne faut pas s'arc-bouter sur nos passés, sur nos cultures, pour refuser l'ouverture. Nous sommes dans un monde globalisé aujourd'hui. Nous sommes dans un monde qui est confronté à des valeurs qui sont universelles. On n'a pas beaucoup mis l'accent sur la démocratisation. On n'a pas mis beaucoup d'accent sur la promotion des droits humains. Nous sommes une société archaïque qui, parfois, favorise, est un creuset et le lit de l'injustice et le creuset de l'émotivité poussée de manière tout à fait négative. On renonce à la rationalité, on raisonne avec le cœur, on renonce à la raison pour encore faire valoir des valeurs qui me paraissent archaïques et dépassées. Oui, il faut développer nos cultures, mais il faut faire un effort de discernement, un effort de maturité pour comprendre que toutes les valeurs traditionnelles ne sont pas forcément des valeurs à encourager, à maintenir.
Donc, avez-vous l'impression que les radios de la place aujourd'hui contribuent par exemple à l'unité nationale, surtout dans notre contexte malien de crise?
Je regrette beaucoup que le représentant de Sigma ne soit pas venu, parce que je pense qu'il avait son mot à dire. Je suis sûr et certain, et Dante va me confirmer ou me démentir, c'est que Sigma doit beaucoup s'appuyer sur ces radios de proximité pour échanger. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de promotion politique. Je ne parle pas de politique partisane, hein. Je parle de politique développement de la cité, au sens noble, au sens premier du terme. Et l'effort de cet organisme, je ne voudrais pas parler à sa place, mais je pense que cet organisme gagnerait beaucoup à s'appuyer sur ces radios de proximité. Non pas les flatter dans leurs instincts naturels, mais les amener à un processus de participation réel, à les faire réagir sur les préoccupations de l'heure, à interpeller, à dire des choses qui peuvent même déranger le gouvernement, mais et à donner des réponses satisfaisantes pour que vraiment tout soit clair, que la gestion de la cité se fasse dans la transparence, que les affaires publiques soient gérées de manière transparente et que le gouvernement ait suffisamment de courage de faire face aux interpellations que la population. Les radios doivent contribuer à l'éveil des mentalités. Or, notre société traditionnelle a tendance à se résigner dans une espèce de fatalisme. S'il y a des problèmes, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Non, il faut qu'on interpelle, il faut que les citoyens soient conscients, qu'ils soient conscients de ses responsabilités d'interpeller le gouvernement. Et je dis, Sigma gagnerait beaucoup à travailler avec ces radios de proximité.
Merci, Bombote. Alioune Djim de la HAC, quel est l'avenir de la radio finalement? Est-ce que la radio va disparaître un jour au profit d'un autre médium peut-être? Alioune Djim, on vous entend mal. On vous entend mieux maintenant.
D'abord, la radio a un beau futur devant lui, un bel avenir devant lui. Ça, c'est devant elle plutôt. Donc ça, c'est du connu. Et lorsque Martin Fay demande d'adapter la radio à la culture africaine, il a raison. Et je crois que des efforts sont en train d'être faits dans ce sens. Quand vous prenez, par exemple, l'émission La Revue de la Presse, c'est un des meilleurs accompagnements dont on trouvera le légal nulle part pour faire comprendre l'actualité traitée dans les journaux à nos coffres, à nos compatriotes qui sont un peu partout et qui ne trouvent pas pendant le journal et de lire. Et même quand ils le lisent, ils ne le comprendraient pas si on n'y ajoutait pas la partie d'humour et de beaucoup de choses qu'on ajoute pour que ces gens puissent le comprendre. Donc nous sommes en train de le faire. Par contre, ce que je veux dire, la formation, je dis, quand vous prenez ce que Dante a dit tout de suite, je ne peux pas comprendre qu'on puisse dire qu'il ne faut pas aller former des gens à des... Non, je n'ai pas dit d'aller dans des académies. Mais vous prenez nos émissions, quand vous prenez une émission santé sur nos radios, ça commence, ça fait une heure de temps. Et en une heure de temps, vous n'entendrez que des dédicaces, vous n'entendrez que des salutations, vous n'entendrez rien, tout simplement parce que la personne qui anime cette émission n'a aucune possibilité, aucun support pouvant lui permettre justement de véhiculer un message de santé. Il n'a même pas le bon réflexe d'aller chercher un médecin quelque part à côté de lui pour l'amener et lui poser la question qu'il faut. Il vient et dit, oui, mon émission, c'est l'émission santé, je salue un tel, je salue un tel, je salue un tel. Vous croyez que c'est ça la radio? Non. Je crois qu'il faut accepter que ceux qui doivent animer les radios soient d'un certain niveau de formation, qu'ils soient d'un certain niveau de culture, parce que quand on parle d'une radio, on ne s'adresse pas rien qu'à son directeur ou à son régisseur, on s'adresse à des milliers de personnes qui ont de niveau très disparate et il faut vraiment des gens qui soient d'une certaine capacité pour pouvoir jouer ce rôle.
Alors, avez-vous l'impression que les radios sont en train de jouer leur partition hein, dans la cohésion nationale tant prônée au Mali?
Oui, et les radios ne sont en train que de faire ça. De faire ça depuis toujours. Tous les problèmes que nous avons connus dans nos communautés, peut-être à Bamako, on est loin de certaines réalités, mais à l'intérieur, tout ce qui a été construit de bien l'a été justement avec et par les radios. Ça, il faudrait demander à Dante, il est à côté de vous. Tout ce qui a été fait de bien ne s'est fait qu'avec la participation de la radio. Nous jouons ce rôle-là d'accompagnement du développement. Nous jouons ce rôle d'accompagnement de la paix. Nous jouons ce rôle d'accompagnement de tout ce qu'il faut pour créer une société malienne vraiment digne de ce nom.
Merci Aliou Djim. Bonjour Dante. Que peut-on faire aujourd'hui pour assainir hein, le secteur de la radio? Tout ne va pas bien dans ce secteur-là également. Quelle est la prochaine étape de la radio au Mali?
Et l'assainissement du secteur de la radio passe forcément par le respect de la typologie. Que chacun soit ce qu'il a voulu être. L'assainissement du secteur de la radio passe aujourd'hui par l'accompagnement des pouvoirs politiques et de laisser la HAC jouer pleinement son rôle. Un rôle qui prendra en compte les spécificités de chaque radio dans chaque localité. Moi, je pense que cela nous permettra d'éviter les constats que Jim a brillamment décrits. Ce qu'il a dit, c'est des constats, mais à côté de ces constats, il y a des gens, des animateurs, animatrices, qui, à longueur de journée, ne cessent d'aller dans les hôpitaux, ne cessent d'aller dans les CSCOM, pour donner la parole à celui qui doit parler sur la question qui concerne son domaine.
Merci. L'un dernier mot, Diomansi Bombote. Quel est l'avenir de la radio au Mali? Quel est le futur de la radio? Comment vous voyez le futur de la radio au Mali?
On n'arrive pas à vivre en dehors de sa propre histoire. Et mon histoire à moi, c'est lié à la formation. Le futur de la radio au Mali, comme de tous les médias, est assez lié à la qualité de la formation et au respect fondamental des valeurs de la profession, les valeurs déontologiques, l'éthique et les valeurs morales. Je dirais moi rapidement sur la nouvelle école de journalisme, les gens sont assez pressés, ils se demandent qu'est-ce qu'elle devient, mais les choses se font en sourdine, certes, la bureaucratie a ses règles, a ses lourdeurs, mais cette école, j'ai bon espoir qu'elle va constituer vraiment une source d'espoir pour la qualité de la formation au Mali.
Et on l'aura très vite?
Ah non, très bientôt. Je pense que le ministre, Mme Samake, est mieux placée pour en parler, mais je ne veux pas trahir un secret. On vient de nommer un nouveau directeur, un professeur émérite de qualité, Alassane Diakité. Je pense que très prochainement, l'école va avoir le jour.
Merci madame, merci monsieur, merci à vous hein, chers auditeurs, ceci met un terme à notre émission d'aujourd'hui. On parlait de la journée mondiale donc de la radio le 13 février, l'occasion pour moi de remercier ces hommes et femmes hein, derrière la baie vitrée. Il s'agit des techniciens, il s'agit également des réalisateurs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur www.studiotamani.org, celle-là ainsi que toutes les autres. Elle a été réalisée par Ibrahim Arandjalo, Salim Djouara était à la mise en onde, Gagny Kanté a assuré la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadié Touré. À demain pour notre émission. Merci.
Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Haloud Moundi.
Chenne Beri.